Effectivement, on dit souvent que je prépare le terrain tellement qu'après, il n'y a plus la place pour autre chose. Et c'est peut-être parce que je me soucie trop pour la préparation du terrain. C'est peut-être que le sujet est effectivement un petit peu pas très évident et j'ai besoin d'expliquer tout ça. Mais éventuellement, l'idée, c'est quand même d'entrer dans les discussions et de faire un vrai échange avec vous. Aujourd'hui, la deuxième séance, c'était effectivement pour essayer de distiller une vue plus synthétique de ce que nous essayons de faire, ce que j'ai essayé de faire pendant la première partie. Et maintenant, pendant la deuxième partie, c'est de parler de l'application de ces idées-là aux relations, question d'amour, la question d'animosité, pour voir d'où ça vient, version dualité, version unité. J'ai développé juste ce schéma qui j'ai essayé de faire vraiment le plus simple possible pour nous aider à savoir qu'il y a deux genres de relations, parce qu'il y a deux genres de schémas de pensée. Il y a un schéma de pensée qui vient dans l'unité. Quand nous nous souvenons que nous faisons partie d'un ensemble, nous avons une sorte de pensée qui découle automatiquement de ces souvenirs. Quand nous pensons que nous sommes des êtres séparés, il y a une sorte de pensée, des automatismes de pensée qui découlent de cette idée-là, que nous sommes séparés. Donc, deux genres de relations. Une genre de relation quand je suis dans l'unité, une autre genre de relation quand je suis dans la dualité. Nous pouvons dire, pour ces grandes familles de relations, quand je suis dans l'unité, j'ai l'impression que tout le monde est inclus dans ma considération. Donc, nous appelons ça les relations d'inclusion. Ça peut aller, relations d'inclusion. Où l'idée, c'est simplement que n'importe qui que je rencontre, j'ai l'impression, c'est à un certain niveau, qu'il est inclus avec moi sur cette grande main. Nous faisons partie d'un ensemble, je suis moi séparé et différent de cette personne que ce que j'ai pensé auparavant. Ça, c'est une relation d'inclusion qui mène vers la paix et la tranquillité. De l'autre côté, nous avons les relations d'exclusion, basées dans la dualité, où je focalise plus sur nos différences. Le fait que nous ne sommes pas pareils, nous avons des intérêts séparés et différents. Nous voulons des choses différentes. Donc, deux grandes familles de relations. Nous allons focaliser peut-être un petit peu plus maintenant, dans le temps qui nous reste, sur ces relations d'exclusion qui sont beaucoup plus intéressantes, parce que c'est ces relations-là que nous essayons de transformer. Si nous sommes déjà dans les relations d'inclusion, très bien, restez-y, ne bougez pas, faites votre vie, et bonne voile et bonne chance à vous. Mais pour ceux qui ne sont pas encore à 100% dans les relations d'inclusion, et vous êtes comme moi, avec au moins une partie de vos relations dans l'exclusion, restez ici, et puis nous allons en discuter un petit peu. Il y a grossièrement deux genres de relations d'exclusion. Okay. Quand j'ai décidé que je suis dans la dualité, après, j'ai deux genres de relations, grossièrement parlant. J'ai les genres de relations où je dis que j'aime quelqu'un. Et j'ai une autre relation où je dis que je n'aime pas quelqu'un. C'est assez noir et blanc. Souvent pour l'ego, c'est assez noir et blanc. Il y a des gens que j'aime, des gens que je n'aime pas. Des gens dans le milieu, bon. Ouais. Souvent, je peux les mettre d'un côté ou de l'autre. Dans les relations des gens que j'aime, je peux mettre mes amis, normalement mon époux, mon épouse, mon patron, ça dépend du jour. dans les relations de je n'aime pas, on peut mettre tous les grands bandits, tous les autres, tous les grands bandits. D'accord? Est-ce que vous connaissez les bandits? Qui sont les bandits actuels dans la vie?
Monsanto.
Monsanto, hein, c'est pas mal. Ouais, plutôt peut-être des dirigeants de l'homme de Monsanto. C'est une grande industrie agricole.
Sanofi.
Sanofi, d'accord. Et des hommes politiques?
Tous.
Hein? Ça s'est dit. Ça s'est dit. En Syrie, est-ce qu'on connaît? Non? Il n'y a que des bandes, des gentils là-bas, en Syrie? Bachar al-Assad, ok. Est-ce qu'il y a d'autres? Kadhafi, il n'est plus là. Les grands bandits, est-ce que sur les infos le soir, est-ce qu'on a l'impression de les connaître? On est fait connaître quand même les grands bandits de la société là. C'est-à-dire, ça c'est les grands bandits. Maintenant les petits bandits. On veut aussi que vous focalisiez sur les petits bandits. Qui sont les gens qui vous agacent dans votre vie quotidienne?
Les voisins qui font du bruit nocturne.
Les voisins qui, si vous êtes à la campagne, qui répandent la lisière. Un jour de pique-nique. Un jour de pique-nique et un jour quand il fait chaud. Le lisier. Ouais, pardon, merci. Le lisier, un jour quand vous avez décidé de faire un pique-nique et il fait chaud. Hein? Ils ne nous agacent pas. Ils nous ont vus en plus, ils ont fait comme ça, avec les grandes citernes derrière. Ils savaient très bien ce qui allait se passer, avec des nuages de mouches derrière. Donc, mais si vous êtes en ville, qui sont les petits bandits? La caissière. Vous n'avez jamais eu de problème avec une caissière ou avec une commerçante?
Le commerçant aussi, d'ailleurs.
D'accord, très bien. Ah, c'est un peu parti pris, j'avoue. Une ancienne commerçante. Ah, ne me dis pas, Martha, que tu n'as pas été moins qu'impressionnée par une caissière, quand même, à des moments.
Il faut ce qu'elles peuvent, il faut savoir qu'elles sont
oui.
Au-dessus. Donc, des fois, un sourire, c'est...
Absolument. Voilà. Ah oui, mais... Maman, tu essaies de nous basculer vers un sentiment d'inclusion. Je ne veux pas ça. Oh là là, elle essaie de faire le travail. Non, mais...
Question. Les féminités peuvent des fois amener l'exclusion.
Dites-moi.
Si j'ai des pensées qui sont de ce côté-là, mais que la société a des pensées qui sont de ce côté-là, automatiquement, ça peut créer une exclusion de certains groupes de pensées, parce qu'on n'a pas les mêmes pensées.
L'idée, je sais que je suis dans une optique d'exclusion. Si je pense que l'autre en face de moi ne fait pas partie de ce cercle, ne fait pas partie de cette grande main, grande belle main que nous sommes tous. Si, quand je commence à ressentir qu'il y a des choses tellement mauvaises que l'autre pense ou qu'il fait, qu'il exclut automatiquement, il ne peut pas être contenu à l'intérieur de cette grande dimension d'unité. C'est à ce moment-là que je commence à ressentir une sens d'opposition avec l'autre, que je sais que je ne suis plus dans une relation d'unité ou une relation d'inclusion. Ça se pourrait bien que la société nous exclue, que la société nous juge. Mais on ne va jamais, jamais pouvoir empêcher les gens de nous juger.
Ça, c'est... Quelle est l'attitude que l'on prendrait dans ce cas-là?
Toujours la même compréhension. Si jamais quelqu'un vous juge ou vous exclut, vous essayez de vous souvenir pourquoi. Pourquoi, si quelqu'un vous exclut, si quelqu'un vous considère, vous juge, vous pouvez toujours vous souvenir que la personne a dû basculer vers un esprit de la dualité, qu'il est sorti du calme qui est à l'intérieur de l'unité, qui s'est rempli de cette sorte de mal-être, cette tension qui vient automatiquement quand il a dit non à ça, à cette main. Il a essayé de se séparer en tant qu'un doigt de la main. Ça fait mal. Tirez sur votre doigt et essayez de voir si ça fait pas mal. Hein, pour le séparer de la main, ça fait mal. Il est rempli de cette tension qu'il ne veut pas voir parce qu'il est dans le déni, comme nous le sommes tous pour la plupart, dans les 90% de « je ne veux pas savoir ». Et par automatisme, il juge les autres. Pour ceux qui pensent sont les défauts des autres, automatiquement. Nous sommes tous jugés, nous sommes tous exclus par les autres. Nous sommes venus ici dans un sens, dans un monde qui va naturellement nous exclure parce que nous prétendons tous d'être des doigts séparés de la main. C'est normal, c'est la façon de ce monde, c'est le mode d'opération de ce monde. Ça va nous arriver. La question c'est, est-ce que nous pouvons nous souvenir de les pardonner de leur erreur de sortie de l'unité, ou de comprendre leur erreur d'unité, de sortie de l'unité.
À prendre une distance et à comprendre une réaction, mais on comprend et on se met à l'écart aussi pour se protéger peut-être. Je pense que ça semble logique dès lors où on a compris de ne pas spécialement vouloir aider cette personne, parce que peut-être si elle ne veut pas changer, on n'est pas là non plus pour la changer, de pas avoir ce pouvoir-là. Et de pouvoir simplement comprendre et laisser la personne avec ses idées et ne pas être affectée de certains propos. Je pense que c'est peut-être
très bien.
Sans dire je vais pardonner, parce que là, pardonner, c'est peut-être encore une autre démarche.
Oui, on va
simplement peut-être comprendre.
Comprendre, absolument, oui. C'est une autre démarche. Si vous voulez, le pardon, en fait, dont je parle, c'est plutôt dans la compréhension.
D'accord.
Parce que quand on comprend l'autre, on relâche automatiquement notre jugement.
Évidemment.
Oui. Ce n'est pas un pardon, une grande chose divine. Voilà. C'est uniquement tout ce qui nous aide à relâcher notre jugement de l'autre est très bénéfique, parce que ça nous déplace vers l'inclusion et nous allons nous sentir mieux. C'est tout à fait ça. Il y a des gens qu'on ne peut pas les changer et on n'est pas là pour les changer. Absolument.
Et puis il y a la différence entre l'autre en tant que personne et ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Par exemple, on peut critiquer ou juger ce qu'il dit, par exemple un membre du FN, et ne pas rejeter la personne elle-même, justement en se disant. De toute manière, nous sommes dans l'unité, quoi. Mais je ne suis pas d'accord avec.
Enfin, je sais pas. Oui, tout à fait. Et on a eu aussi la question tout à l'heure. Quelqu'un est venu me voir. Comment vous vous appelez?
Nathalie.
Nathalie est venue me voir tout à l'heure. Il m'a posé la même question à peu près sur les nazis et puis les nationalistes, les gens en fait, qui essaient de nous entraîner à faire des choses que nous n'avons pas envie de faire, avec lesquelles nous sommes formellement opposés. Comment s'opposer quand on est dans une unité? Et en fait, les deux choses ne sont pas du tout incompatibles. On n'est pas obligé d'être d'accord avec leurs erreurs. On n'est pas là pour être complaisant, c'est ça, avec leurs erreurs et leur comportement. Si eux, ils ont fait le mauvais choix et ils sont plus dans l'unité, mais dans la dualité, ils vont bagarrer, ils vont voir l'opposition là où il n'y en a pas. On peut être parfaitement dans l'unité toujours et ne pas être d'accord avec le comportement de mon petit doigt qui commence à agir dans tous les sens pour se séparer des autres, faire mal aux autres doigts. Et nous avons besoin des fois de contenir les mauvais agissements d'un membre de notre unité pour qu'il se calme, pour qu'il se souvienne ce qu'il est. On peut protéger l'autre ou agir dans l'intérêt de l'ensemble, mais on le fait sans jugement, sans exclusion morale de l'autre personne. On sait pourquoi il fait ce qu'il fait. On se souvient, on essaie de comprendre que oui, il nous traite il n'aime pas la couleur de ma peau, mais ce n'est pas pour ça. Et il dit que c'est pour ça qu'il veut me tuer ou veut m'exclure. Moi, je sais que la raison réelle qu'il ne m'aime pas, ça n'a rien à voir avec ma peau. C'est parce qu'il a fait le mauvais choix vers la dualité. Il se sent extrêmement angoissé à l'intérieur. Et cette angoisse ressort, projetée, comme une angoisse par rapport à moi-même, parce que je n'ai pas la bonne couleur de peau. Ça n'a rien à voir avec moi. Il est dans un délire. N'importe qui est dans la dualité est dans un délire. Et il va avoir des peurs incompréhensibles. Ben non, je ne vais pas dire incompréhensibles, absurdes. Il va avoir des peurs absurdes. Donc c'est à moi de comprendre ces peurs absurdes, même si les peurs sont dirigées vers moi.
Et maintenant, on peut encore en discuter comme ça, mais c'est beaucoup plus difficile, par exemple, en tout cas pour moi, d'inclure, par exemple, un pédophile ou un violeur. c'est très très dur en fait.
On va le mettre dans notre grand entonnoir pour essayer de comprendre déjà pourquoi un pédophile fait ce qu'il fait d'un côté et pourquoi ça peut me heurter, ça peut me causer un problème particulier plus que notre. Donc pour revenir à notre modèle, un pédophile fait ce qu'il fait parce qu'il est sorti de cette grande famille dans son esprit, de l'unité. Il se sent exclu, il se sent manquant, il se sent dans une besoin. Déjà, il se sent moins que rien parce qu'il a dit non au tout, à la totalité. S'il se souvenait de ce qu'il est vraiment, il serait rempli d'un sentiment d'apaisement. Il n'aurait plus la moindre envie de toucher qui qu'il soit ou de prendre quoi qu'il soit. Donc forcément, il n'est pas dans cette unité d'esprit.
Oui, est-ce qu'il a dit consciemment non? C'est ça comme ça?
Inconsciemment, mais c'est-à-dire qu'il y a...
récemment, on a vu à la télé deux fois des gens qui mettent en ligne le mal qu'ils ont fait. Donc oui, plus, oui. Ils ont besoin de le monde.
Il faut considérer que ces gens-là sont dans un délire. Voilà. Ils subissent une sorte de maladie de l'esprit. C'est évident. S'ils réjouissent dans la violence, c'est une maladie. C'est une maladie. Mais de là à dire que ces personnes-là n'ont pas leur place au sein de notre main, au sein de notre unité parfaite, ça sera une erreur de notre part. Ils ont leur place. C'est qu'ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas fait un acte. L'acte est condamnable. L'acte mérite une correction, absolument. Mais au fond, il y a une erreur d'esprit, un mauvais choix d'esprit qui est l'origine de cet acte. On va les mettre en prison, on va faire ce qu'il faut pour contenir ça, mais on ne va pas le faire avec un esprit pour condamner, pour les exclure, mais pour les comprendre. Et c'est uniquement cet esprit-là qui a l'espoir de les ramener vers un esprit plus sain. Quand ils voient réfléchir chez nous un esprit plus compréhensif, qui ne les exclut pas, qui ne ferme pas la porte. Donc l'entonnoir, on veut d'abord voir d'où vient leur comportement. C'est un comportement d'un être très dérangé, mais dérangé parce qu'il a fait un mauvais choix, donc il est déchiré à l'intérieur par ce choix. Il ne faut pas sous-estimer la puissance de ce déchirement d'avoir dit non à sa réalité, à sa réalité dans l'esprit. S'il n'est pas un individu vraiment, mais il fait partie de l'ensemble, mais il insiste qu'il a un individu et il dit systématiquement non à la présence de cette unité qui est derrière comme une sorte de souvenir. Nous avons tous ce genre de souvenir de notre réalité, de cette unité qui est juste derrière. Nous avons tous ça.
On pourrait dire aussi que la victime d'un violeur, par exemple, est aussi dans la même forme d'état d'esprit. Parce qu'elle attire à elle cet événement.
De la personne
qui est la victime.
Qui est la victime. Attends un petit instant. Attends un petit instant. Juste pour finir avec le pédophile et le violeur, on peut d'abord comprendre que ça vient d'un dérangement profond de son esprit, mais un dérangement profond que je partage. C'est une étape essentielle. Que j'ai fait la même erreur que lui et je suis capable de faire la même chose que lui, mais pas dans la même forme. Je ne vais certainement pas aller sur Internet ou essayer de piéger un enfant pour mes besoins.
Bon, il le fait aussi parce que la plupart du temps, il a vécu. Et puis, il est formaté comme ça. Il a eu ça comme exemple.
Ça se pourrait qu'on peut aussi essayer de comprendre ces aspects de son histoire. Ce qui est intéressant aussi pour moi c'est de savoir que je suis capable de faire la même chose que lui, mais dans un autre milieu, d'une autre façon. Qui n'a jamais voulu prendre quelque chose qui appartient à une autre personne sans que la personne souhaite me le donner, forcément. tout le monde a eu un sentiment à un moment ou autre, ou peut avoir l'envie d'avoir quelque chose qui appartient à un autre, et on sait pertinemment que l'autre ne va pas vouloir me le donner. On est tous capables d'avoir ce sentiment. Nous sommes une unité, nous contenons tous la même racine de pensée. Et je suis, dans certains cas de figure, capable de mettre une certaine énergie ou mouvement derrière ça pour essayer de prendre quelque chose ou essayer de profiter d'une certaine situation, d'essayer de profiter de la faiblesse de quelqu'un, ne serait-ce que la caissière qui me donne trop de monnaie. Ah oui, j'ai pas vu qu'elle m'avait donné trop de monnaie. D'accord ? Donc, il y a tout petit exemple, mais qui reflète exactement le même esprit. Il ne faut pas sous-estimer, il n'y a pas des gens, nous sommes tous pareils, nous sommes tous identiques, nous contenons tous le même esprit, nous n'avons pas la même façon d'exprimer cet esprit-là. Nous sommes une main, d'accord, donc l'ADN de chaque doigt est exactement pareil. L'ADN de ce doigt-là n'est pas différent de l'ADN de ce doigt ici. L'ADN, la substance, nous allons à l'intérieur, c'est exactement pareil.
Et alors, qu'est-ce qui fait notre différence, justement?
La différence, on a différence d'apparence, on a beaucoup de choses qui sont différentes.
On va faire un choix à un moment qu'on va, par exemple, choisir l'inclusion ou choisir l'exclusion. Qu'est-ce qui fait si on est tous qu'on suit pareil avec le même schéma de pensée? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on va prendre un chemin ou un autre? On va...
Dans ce qui semble l'individualité de chaque doigt, c'est-à-dire que chaque doigt ne s'est pas encore rendu compte qu'il fait partie de la main. Il pense toujours, je pourrais mettre un petit smiley sur chaque petit doigt là, j'ai un petit sourire, deux petits yeux, et on aurait largement l'impression qu'il y a quand même cinq personnes différentes là. Tant que ces doigts ne se sont pas encore réveillés entièrement à leur unité, ils vont avoir l'impression d'avoir un libre choix. Un choix différent des autres. Donc lui, il va décider, aujourd'hui, je veux me souvenir de ma réalité en tant que main. Celui-là, c'est dans un mois. Celui-là, dans 5 ans, et l'autre, dans la vie prochaine, ou je ne sais pas quand. Mais tant que nous avons une impression d'être des individus, nous allons avoir l'impression de pouvoir décider à un moment ou autre que nous voulons maintenant faire le choix de nous souvenir, que nous ne sommes pas séparés. Je ne sais pas s'il y a une bonne réponse. Je pense que c'est une question de peur, un niveau de peur. Mon prof m'a toujours dit que nous avançons uniquement à la vitesse de notre peur, ou de reculement de notre peur. C'est-à-dire que la seule chose qui nous empêche de nous souvenir de la réalité, et d'être comme les plus grands sages, c'est notre peur, de nous souvenir de ce que nous sommes en vérité. Donc, il y a des jours où j'ai un peu plus de peur, des jours où j'ai un peu moins de peur. C'est pour ça que je ne peux pas en vouloir à mon voisin ou à une autre personne qui fait un chemin comme moi s'il recule, entre guillemets, s'il fait un choix vers l'agressivité. Il a pris peur. Il a pris peur de cette présence aimante juste à côté de lui. Il a dit non à cet esprit tranquille. Il a dit oui à cet esprit d'agressivité et d'opposition, mais par peur. C'est pour ça que ça devient tellement facile à un moment de laisser tomber nos jugements. Parce que nous savons d'où vient le mauvais comportement des autres, l'agressivité des autres. C'est une peur. Nous sommes ici dans nos relations agressives par opposition à ces relations d'inclusion et de tranquillité. Des fois, nous pouvons même nous sentir bouger vers ou évoluer vers les relations plus tranquilles. Puis soudain, on a un mauvais jour, mais un mauvais jour, on en suit. Et il y a une sorte de vague d'agressivité ou d'énervement qui revient. Et toute la journée, c'est comme une prise de tête. Des fois, ça se laisse porter à l'extérieur. Des fois, on le garde à l'intérieur. Mais on sent que toute la journée, c'est comme si on a reculé 10 ans en arrière. Et c'est à cause de ça, c'est plutôt une vague de peur qu'autre chose, que je me sentais quasiment partir vers cette grande océan. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure, que voilà, notre réalité est l'océan, et pour l'instant nous sommes comme une vague ou comme une goutte. Et la vague et la goutte doivent se rendre compte un jour qu'ils sont l'océan. Mais des fois, je prends peur de l'océan. c'est très bouddhiste comme idée.
Une question aussi, pourquoi limiter à chercher la diversité pour devenir limité?
C'est la question permanente. Oui, c'est la question permanente. Il n'y a pas une bonne réponse qui satisfait l'intellect. La difficulté, c'est qu'en fait, nous essayons de comprendre cette question-là. Pourquoi l'imperfection existe en dehors de la perfection? Pourquoi la dualité peut exister à l'intérieur de l'unité? Pourquoi passer par la dualité pour revenir à l'unité? On essaie de le comprendre de par notre intellect. Mais l'intellect a été fabriqué pour exclure l'expérience de la totalité, de l'unité. Donc c'est uniquement quand nous nous sommes réveillés ou éveillés à la réalité que nous comprenons comment la dualité n'a jamais pu exister. La dualité est un jeu. C'est tout comme un rêve. Si l'unité est la seule réalité, ça exclut la possibilité d'une dualité. Nous parlons maintenant comme si la dualité est une réalité, comme si ça existe, c'est quelque chose qui existe tous les jours. Mais si l'unité est un principe réel, ça exclut la possibilité d'une dualité. Ça ne peut pas exister. Mais on n'arrive pas à comprendre ça. Donc nous faisons semblant. Nous faisons semblant pour l'instant que la dualité existe. Quand, le jour que nous sommes éveillés, nous pouvons comprendre, mais nous avons l'expérience de la non-existence de la dualité, que ça n'a jamais été. Mais on peut avoir l'expérience, on peut penser avoir l'expérience de la dualité. Quand nous avons l'expérience de la dualité, le mouvement naturel, c'est de revenir vers notre état d'origine, si c'est notre état d'origine. Ouais. Donc, il y a aussi les bouddhistes ou les hindous disent si une maison est en feu, d'accord, c'est-à-dire si nous sommes dans la dualité. La dualité, c'est comme une maison qui brûle. Nous sommes assis dans notre fauteuil. Soudain, on se rend compte que la maison a pris feu. Tout risque de s'écrouler. Nous n'allons pas rester dans la maison pour se poser des questions. Mais d'où vient ce feu? D'accord? Nous allons partir de la maison aussi vite que nous pouvons. Donc, ça vient de la tradition hindoue, bouddhiste, je ne sais pas. L'autre façon de poser la question, c'est pourquoi nous choisissons la dualité tous les jours, toujours? Quand nous pouvons toujours choisir la tranquillité de l'unité. Mais c'est...
Oui, il n'y a pas quelqu'un qui a inventé la dualité par rapport à l'unité et puis qui nous ferait marcher de l'un à l'autre.
Non, malheureusement, c'est nous. C'est nous. C'est la main. C'est cette main divine, cette main cosmique qui a imaginé une sortie de l'unité et maintenant essaye de voir qu'il n'a jamais vraiment pu faire un chemin en dehors de cette perfection. C'est différentes traditions qui essaient d'exprimer la même chose. Que la seule chose à faire, qu'il y a unité-dualité, la seule chose à faire dans la dualité, c'est d'essayer de retrouver l'unité. Mais bon, les relations, entonnoir, tous les problèmes sont pareils. On a eu pédophile, on a eu aussi une question par rapport à la personne qui subit, qui est victime. Est-ce qu'on peut dire que la victime a choisi d'être victime? C'est très compliqué. Mais la bonne réponse, c'est que nous ne sommes jamais responsables pour ce qu'ils font les autres. D'accord? Ça, c'est la façon qui va nous aider, c'est une façon de réfléchir qui va nous aider à rester neutre et compatissant. Il faut toujours être compatissant avec les gens qui souffrent, même si la souffrance c'est leur choix. Il faut néanmoins rester avec eux, pas forcément pour céder à leur souffrance.
C'est un petit peu le problème, mais
effectivement les gens qui sont victimes et qui sont quand même jugés avoir provoqué une situation. Et ça, c'est très courant. C'est très troublant. Dans le même temps, par exemple, d'évoquer qu'une femme qui subit des coups, en France, on est quand même
malheureusement
au corps de ce genre de choses, et quand on l'évoque à l'étranger, c'est pas possible dans ce pays moderne et démocratique, ça existe toujours.
Oui.
Et que finalement, même des femmes disent, elles ont dû le provoquer. Et ce discours-là est très courant.
Oui.
Une femme qui se fait agresser dans un parc dans une certaine heure, c'est au théâtre, elle l'a provoqué. Ce discours est totalement pas compatissant. Ni compatissant pour l'agresseur, ni compatissant pour la personne qui était dans le parking.
Oui.
Donc en fait, il n'y a rien de dément, il n'y a rien de compréhension, rien. C'est un discours simplement pour parler et qui est vide.
Oui.
Et qui maintenant est très. Moi, j'avoue qu'il me. Qui m'affecte.
Oui, on a du progrès à faire dans tous les niveaux de la société, on n'y est pas encore, mais espérons qu'un jour on va avoir plus de clarté par rapport aux vraies motivations de chacun. Ce que nous pouvons considérer, il ne faut pas sous-estimer, il faut toujours être compatissant avec les gens qui sont dans la souffrance. Il ne faut pas négliger non plus notre propre tendance, notre propre envie de souffrir dans d'autres circonstances. C'est une façon quand on va vers plus de conscience de soi-même aussi. C'est de se voir souffrir et se voir choisir la tension, la peur, quand on voit qu'on a une autre option, une autre façon de faire. Mais parlez-moi encore un peu plus de vos différentes relations, les gens qui vous agacent. On a ici un modèle et on essaie de voir comment le modèle fonctionne ou pas. Surtout par rapport aux situations qui vous agacent, les relations d'amour, les personnes que vous êtes censées aimer, qui sont difficilement aimables. Oui. Pensez à vos beaux-parents. Je ne sais pas, vous avez des beaux-parents adorables
Non, moi, il y a quelqu'un qui m'a super agacée, et quand je pense à elle, j'essaye de bloquer, de ne pas déraper, non mais penser. Ou de ne pas en parler à d'autres, parce que je me dis, de dire du mal, c'est tuer quelqu'un socialement et moralement. Donc on est aussi des tueurs dans notre... Donc quand je pense à elle, j'essaye de... Je me dis non, ça me... j'ai pas envie d'être concernée par cette colère, tout ça.
D'accord. Donc c'est peut-être une façon de faire face à quelqu'un qui vous agace vraiment.
Je lui ai dit à cette personne, ça, il faut que tu arrêtes ça, parce que ça fait beaucoup de mal.
D'accord.
Je lui ai dit ma pensée.
D'accord.
Après, ça fait un an que je me traîne ça, donc je suis moins en colère qu'un an.
D'accord.
Je me dis, quand j'y repense, je me dis, non, je veux pas être, ça m'intéresse pas. Je veux pas être comme ça.
D'accord.
Dans la rancune, dans tout ça.
Effectivement, certaines personnes peuvent nous entraîner dans la rancune et dans des sentiments très difficiles, voire vraiment agressifs. Et des fois, on peut se voir être très agressif auprès de quelques personnes, même si c'est juste dans l'esprit, quelqu'un qui est très loin ou même quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Et on peut décider, ou on peut essayer de décider de ne plus suivre ce chemin et de ne plus penser comme ça. J'ai une autre proposition. Une autre suggestion, c'est que quand ça vous arrive, parce que des fois, c'est essayer de dire non à une partie de nous, mais un non à une façon qui ne laisse pas s'exprimer d'une façon utile. Si jamais ça vous arrive et vous avez ces sentiments d'agressivité et vous voulez dire non, il y a une façon de dire non qui peut éventuellement diminuer cet aspect. C'est que vous dites, la façon de dire non à cette montée d'agressivité, c'est de savoir pour vous-même d'où ça vient d'abord. Ça vient de votre décision de sortir de l'unité, ça vient de votre choix, mais c'est un phénomène naturel. D'accord ? Ça ne fait pas de vous un monstre, ça fait de vous une personne normale dans la dualité. la dualité, c'est une condition d'agressivité et de haine. Voilà, tout est dit. Donc, ne soyez pas surpris si vous avez des remontées de haine et d'agressivité.
Et ça...
Très bien, très bien. Je ne vous le suggère pas. C'est pas sur le menu. Donc, si vous êtes l'une de ces personnes qui a des remontées d'agressivité et de haine dans la dualité, sachez que ça vous fait pas de vous un monstre. C'est normal à l'intérieur de la dualité. Il faut presque chercher. Nous voulons voir notre investissement dans la dualité pour le défaire. C'est pas pour le faire en le plus fort, c'est pour le défaire éventuellement. C'est en le défaisant que ça va disparaître. Ce n'est pas en le niant. Voilà. Ce n'est pas en disant non d'une façon catégorique et systématique, parce que ça risque juste de le figer, de le bloquer. On va pas le laisser partir doucement et tranquillement. C'est juste un choix. L'agressivité en nous, c'est juste un choix. C'est tout ce que c'est. C'est un choix erroné. C'est un choix qui vient d'une mauvaise idée de la nature de la réalité. La haine, c'est un sentiment extrêmement particulier, extrêmement individuel. Donc, une partie de nous adore. Une partie de moi adore la haine. Je me sens moi-même très, très différent de l'autre personne qui n'est pas du tout comme moi. Absolument.
Si effectivement on reconnaît ça, on reconnaît cette situation vraiment très difficile, est-ce qu'il est possible d'avoir un regard doux et gentil et donc on est la proie? Et je pense qu'on est la proie. Uh-huh. Dans le cas où on se tient bien droit dans les yeux, même qui est très agressif, qu'on dit non, je ne serai pas la proie, peut-être qu'on évite d'être un peu.
Ah oui,
là, c'est
oui,
pas
oui.
La haine, c'est simplement. Je suis individu,
oui.
Je ne suis pas avec toi, là, je ne suis plus dans l'ambiguïté,
oui,
je ne fais plus partie de la main, mais j'ai le prédateur en face.
Ah oui, mais il y a beaucoup de prédateurs dans cette société, énormément. Il n'y a pas des gentils ici. Ah non.
Donc effectivement, on reconnaît à ce moment-là qu'on est en situation de peur, enfin de peur, oui, on reconnaît la peur, parce que dans notre culture, on a eu les contes, on a eu tout ça. Ouais. Finalement, on a appris aussi le danger.
Oui.
Même si on a le danger sans regarder la télé.
Ouais.
Mais on a appris le danger. Donc, on reconnaît une situation, on reconnaît un regard, on reconnaît une attitude qui fait qu'on se dit, là, je suis en présence de quelqu'un qui, il peut être dangereux.
Ah, il y a
sur l'attitude
moi.
Que je vais avoir, d'ailleurs, l'Institut Crédit qui le dit, que sur l'attitude que l'on a, on peut se prêter comme victime ou pas. On apprend ça, cette attitude, on est moins en danger.
Mm-hmm.
Ou peut-être on évite quelque chose. Mais à ce moment-là, on a quand même un sentiment qui n'est pas très bon à l'intérieur, voyons ce prédateur. C'est-à-dire qu'on est quand même l'animal qui va sortir presque.
Oui, c'est con, absolument.
Et finalement, on va être animal.
Oui, absolument. D'abord, il y a des prédateurs et il faut entre guillemets se défendre contre le comportement des autres qui ne nous veulent pas du bien. Ça, c'est un monde comme ça. On ne peut pas dire autrement. On n'est pas ici pour passer les fleurs à tout le monde. C'est évident. On parle de l'unité et tout ça et de l'amour, mais ça n'a rien à voir avec le comportement.
D'accord,
que ça soit clair. Ce n'est pas une histoire du tout de sortir d'ici, dire j'ai fait partie de l'unité, j'embrasse tout le monde, mon voisin, et puis tiens, prends mon billet de 50 € et toi, donnez mon argent, venez chez moi, mangez ce que vous voulez dans le frigo. C'est pas du tout ça. C'est pas une question de comportement. C'est une question d'attitude à l'intérieur. Purement ça. Et quand je sais que nous faisons partie d'une unité à l'intérieur, ce que je fais auprès des autres sera moins dans la condamnation, moins dans le jugement. C'est tout. Et donc, si je suis en face d'un prédateur et j'arrive à me souvenir que sa façon agressive, il veut me tuer. Voilà. Mais psychologiquement ou physiquement, il veut me tuer. Si j'arrive à me souvenir d'où vient ça, et ça vient du fait qu'il veut se tuer lui-même. Parce qu'il est tellement mort à l'intérieur, tellement déchiré, détruit à l'intérieur. Il est rempli d'un sens d'agressivité, colère tellement vaste. La seule chose qu'il veut faire, c'est de mettre ce couteau psychologique, c'est le jugement dans le dos de quelqu'un. Le plus que je peux comprendre, que ça n'a rien à voir avec moi. Le plus je peux faire face à cette personne, et mes réponses vont me surprendre. Et ça va souvent couper absolument net et clair la réaction de la personne en face, parce qu'il va ressentir dans l'esprit qu'il n'a pas quelqu'un en face avec qui il peut jouer son jeu. Parce que tout ce qu'il cherche, c'est quelqu'un qui va tomber dans la peur ou dans l'agressivité. C'est tout ce qu'il cherche. Mais quand il trouve quelqu'un en face chez qui ça n'a aucune réaction, il se tourne vers une autre personne. Parce qu'il n'a pas l'aliment, il n'a pas la nourriture qu'il lui faut. Il veut la peur ou l'agressivité de l'autre. Et, ou le jugement. Il adore, il veut que ça. Mais quand il a un esprit tranquille qui ne réagit pas, qui comprend, il passe à autre chose.
L'identification, en
fait. Si nous identifions avec l'agressivité en lui, ça va nous rendre agressifs. Parce que nous avons vu le tueur en lui, et si je me permets, je vais voir le tueur en moi. Quand vous dites les crocs, les griffes et tout ça, que j'ai.
C'est pas visible.
Oui, bien sûr.
C'est ouais. Identifier la personne en face, mais que la personne sache qu'il y a une compréhension et que voilà, on a.
Et à ce
moment. Pas de jugement, effectivement, mais seulement, moi je ne sais pas pourquoi.
Ben si je démontre quelqu'un qui est neutre et qui est neutre, ça donne le choix à l'autre de dire mais je comprends pas mon jeu, je comprends pas pourquoi j'ai été agressif, je vois rien chez l'autre personne qui me fait vouloir continuer.
Il y avait j'avais lu quelque chose, c'était quelqu'un qui était quand même aussi sur une voie spirituelle, hein, qui était dans un tram au Japon. Et il y a un homme très très agressif qui est monté. Et cette personne, celui qui montait était tellement agressif que cette personne qui écrivait l'article a pensé le jeter, enfin faire arrêter le train et puis le jeter ou se battre contre lui. Enfin bref, c'était quelque chose comme ça. Et il y a un vieux monsieur.
Ah, je connais cette histoire, oui.
Vous connaissez ? Oui, qui avait l'air de rien. Et qui a commencé à parler à cet homme qui était sourd, en fait, et très, très violent. Et il lui a parlé tout à fait naturellement, enfin, comme justement à partir de l'unité, en fait. Et cet homme violent, sourd, ivre, mort, et qui était plein d'agressivité, a fini le trajet assis à côté du vieux, sa tête sur ses genoux, et l'autre qui lui caressait la tête et consolait.
C'est une magnifique histoire qui est réellement arrivée à Jack Canfield, ou Cranfield. Le livre, je pense, A Path with Heart, un chemin du cœur, c'est sur le bouddhisme. Et il était à l'époque au Japon, il étudiait l'aïkido. Il était
faire une prise pour le.
Voilà, le jeter. Voilà. C'est un grand homme, c'était au Japon. Et puis, c'était un grand japonais saoul, vraiment très, très sale, qui est entré dans le train la nuit, commençait à agresser tout le monde. Et puis, lui, il pensait qu'il allait défendre tout le monde, faire le justicier. Il s'apprêtait justement à la plaquer au sol et protéger tout le monde. Et quand le petit vieillard lui a adressé la parole, il lui a dit « Toi, tu as bu là-bas ?» Il dit « Oui, j'ai bu. Qu'est-ce que ça te fait ?» Il dit « Mais qu'est-ce que tu as bu ?» Il a dit « Du saké. Qu'est-ce que ça te fait ?» Et puis, il voit que le petit homme...
J'adore aussi boire le saké.
Et puis, je bois le saké ou j'ai bu le saké avec ma femme sous le cerisier, ce que la sakuraki, c'est un arbre sacré au Japon, tous les soirs, pendant le printemps, la saison, et j'adorais ça. Et puis, l'homme, il se met à côté du vieillard, et il commence à pleurer les trompes de larmes, et il dit « Ma femme est morte ». D'accord. Et c'est, et voilà, c'était la source de son chagrin. Et puis c'était le dénouement, c'était cette histoire d'amour entre ces deux personnes, et qu'il a pu complètement, il a pu vraiment aider à la guérison de cette personne dans sa plus grande tristesse. Oui, c'est une magnifique histoire.
L'aïkidoka, il était complètement subjugué par.
Ouais. Oui, voilà.
Il y en a partout des histoires comme ça.
Oui.
Une qui s'est passée il n'y a pas très longtemps, ici, une petite dame très laissée bouger, elle sortait de la gare avec son petit sac, et elle a été attaquée par quatre, le sac, pour lui voler le sac. Et la petite dame, elle a regardé le garçon, quoi, et elle a essayé de se mettre à la place de sa maman. Et de lui envoyer que de l'amour, que de l'amour, que de l'amour. Et petit à petit, on laisse tomber. Ils sont tous partis.
Byron Katie, il y a aussi une jolie histoire comme ça, ouais, quand elle s'est fait agresser. Ouais.
Donc si on... Enfin, c'est plus fort que l'agression, quoi.
Mon professeur aussi, Kenneth Watnick, il s'est fait cambrioler dans son appartement par un drogué à New York. Et puis il n'avait rien. Kenneth à l'époque là, il était un pauvre étudiant, il n'avait rien. Et puis il lui a dit, il a pris connaissance de sa présence. Il lui a dit qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que je peux vous donner. Il a dit j'ai besoin d'argent. Et donc il a dit prenez tout ce que j'ai. Et donc le monsieur il le prend tout de suite et puis il l'accompagne à la porte, il l'accompagne même à l'ascenseur. Et l'autre, il s'excuse, il dit « je suis vraiment désolé, mais j'ai besoin ». C'était évident qu'il était un toxicomane, il avait besoin pour sa prise. Et puis, il a dit « il n'y a aucun problème ». Et puis à la fin, il lui retourne un billet de 10 ou 20 dollars parce que c'était évident, il n'avait rien, je ne peux pas vous laisser avec rien. Il a dit « non, c'est bon ». Et puis, Kenneth, il a dit « God bless you et Dieu te bénit ». Et il a dit « il a besoin de me bénir ». Et puis, il est parti. Ouais, donc il y a plein d'histoires comme ça. Ouais. Et donc, voilà, pour nous montrer que c'est possible de retourner les situations d'exclusion en inclusion. Je sais que quelques personnes doivent déjà partir. On doit être tard. Merci Nathalie. À bientôt. Ouais. Au revoir. Oui, bien sûr.
Soi-même, c'est-à-dire quand on va jusqu'à un suicide ou quelque chose comme ça, donc, là c'est pas la dualité à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi.
Ouais.
Donc,
ouais.
Ça c'est aussi quelque chose d'assez incroyable, quoi. Donc là aussi, ce travail pour démanteler ce processus, c'est compliqué aussi.
Nous considérons que c'est le même processus, c'est le même phénomène de projection. C'est-à-dire que quand on s'est séparé de l'unité, on sent cette tension qu'on ne peut pas sous-estimer. Le sentiment de désarroi qui pousse les gens à se suicider, c'est ce sentiment de désarroi tellement énorme, tellement gigantesque, qu'on ne sait plus quoi faire, simplement qu'on doit l'arrêter. La seule façon qu'on peut penser faire, c'est d'arrêter ce qui semble la source, c'est la vie du corps. À ce moment-là, ce qui est en train de se passer, c'est qu'au lieu de faire une projection sur les autres, je fais une projection sur moi-même. Mais ça reste le même phénomène, je reste dans la configuration de la dualité. C'est que j'ai ma réalité et j'ai ce qui semble ma réalité dans la dualité. Je déverse la totalité de ma haine, non pas sur mes collègues de travail ou sur les hommes politiques, je déverse l'ensemble de ma haine, de ma honte sur moi-même pour l'incapacité que j'ai de faire la vie, je suis quelqu'un qui ne mérite pas la vie ou je ne sais pas quoi. Ça semble être une solution et peut-être pour certaines personnes, c'est tout ce qu'ils peuvent faire à ce moment-là, c'est d'arrêter ce qui semble la source de leur douleur, espérant pour eux qu'ils trouvent plus de soulagement de l'autre côté. Le petit suicide de la vie, c'est les moments quand on se souhaite la souffrance. On se tue psychologiquement ou on se fait mal. Ça, c'est les petits suicides de la vie, quand au lieu d'en vouloir aux autres, on s'en veut à soi-même. Ça, c'est peut-être encore plus intéressant. Nous essayons juste d'avoir, de savoir d'où ça vient, d'un mauvais choix et de la peur de l'amour, de la peur de cette unité. L'unité pour nous représente cette paix, cette tranquillité, cette inclusion qui est l'amour. L'unité représente ça. C'est l'état qui existe à l'intérieur de l'unité. C'est une paix, une tranquillité au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer dans cette vie de dualité. Et nous pouvons en prendre peur. Comme si on va perdre notre petit soi au sein de cet énorme océan magnifique. Et notre peur peut devenir tellement forte à l'approche de l'amour que nous pouvons nous replier dans la peur et dans la haine. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de savoir d'où ça vient, d'être compatissant, très patient avec nous-mêmes et avec les autres, d'éviter autant qu'on peut de tomber dans le jugement. Si nous tombons dans le jugement, de savoir d'où vient le jugement, ça vient de notre peur de ne pas juger et de retrouver l'amour. Et encore, rebelote, patience, compassion, compréhension, d'où est-ce que ça vient? Une choix erroné d'unité qui nous a sorti de la totalité, qui nous a sorti vers un esprit très difficile, une expérience très difficile, mais une expérience qui était un choix inconscient. Nous pouvons le rendre, pour la plupart des gens, c'est inconscient. Nous voulons rendre ce choix maintenant conscient pour nous, pour refaire le choix dans le bon sens, c'est dire on n'a plus besoin et on n'a plus envie de continuer avec ce mauvais choix de rester en dehors de cette unité. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et voilà, nous faisons des rencontres de temps en temps pour faire une petite piqûre, pour apprendre un petit truc ici, apprendre un petit truc là. Il y a plein de livres sur le sujet, il y a plein de chemins, il y a beaucoup de très bons chemins dans le bouddhisme, même dans le christianisme, bien sûr dans l'hindouisme, au moins dans l'advaita, le courant que je connais, dans le taoïsme, dans le soufisme, il y a beaucoup de très très bonnes spiritualités et de philosophie. La philosophie de Plotin dans le Grèce antique est très valable comme spiritualité, qui est exactement pareil à ce que nous sommes en train de dire. Donc c'est dans l'Occident aussi bien que dans l'Orient. Et voilà, petit à petit, l'humanité va faire son chemin vers la reconnaissance de son unité. Mais il peut être quelle heure? Bon, ben, je pense qu'il vaut mieux qu'on finisse là. Nous restons encore quelques minutes si vous avez d'autres questions. Sinon, notre prochaine rencontre, c'est planifié pour le premier dimanche du mois d'avril. Voilà. Merci encore d'être venu.
Merci.